Depuis de nombreuses années, Madame Orietta Delfini, professeure titulaire de la chaire de philosophie théorique à la Seconde Université de Rome, mais également codirectrice de la revue Essence et modalités essentielles, mais également responsable des rencontres annuelles d'Arcinazzo entre philosophes du Latium et philosophes de Berlin autour du thème « Devenir, advenir », mais également auteur de 3 essais, le jeune Fichte, le jeune Schelling, le jeune Hegel, aux éditions Laterza. Depuis de nombreuses années, disais-je, Madame Orietta Delfini n'a pas de rapport sexuel. Il y a bien eu, voici quelque temps déjà, une demi-relation avec un boursier allemand. Mais le gars voulait tout de suite des lettres de recommandation, et puis il plottait, il roulait des patins, et ce n'était que propos obscènes et souffles rauques, et rien d'autre. C'est ainsi que... Mais pourquoi ? Pourquoi la pauvre, si elle avait pu imaginer, Orietta Delfini s'est choisi un pseudonyme, Libre Chair, et s'est mise à écrire son premier roman pornographique. Le soir, une fois rangée dans un coin les tomes philosophiques, elle se prépare, comme si elle devait se rendre à un rendez-vous de feu. Elle enfile des bas de voile, elle les attache aux porte-jarretelles. Elle met une guêpière noire et argent, des chaussures perchées sur des talons aiguilles, et elle tape à la machine. Elle fait appel à de vagues souvenirs, invente beaucoup, et les mots coulent comme des humeurs vaginales. Les personnages pointent dans les pages comme des tétons. L'héroïne du roman, une belle bien en chair, enveloppée seulement d'un petit imperméable en plastique rose, parcourt de nuit les compartiments des trains pour s'accoupler glorieusement avec des passagers inconnus, à des pères de famille, des banlieusards, des maghrébins, des démarcheurs, des étudiants éloignés de leur famille. L'héroïne offre des instants d'extase. Et comme des rails, les sexes s'allongeaient, transportant vers la joie les pauvres wagons de la vie. Les passages les mieux réussis concernent les fellations. C'est là que Libre Chair est magistrale. Elle a un vocabulaire de marchande de poissons, un palais de sommelier français. Dieu seul sait à quel point elle s'amuse, Orietta, la prof. Elle ne pense même pas à téléphoner à sa mère qui est si seule. Au bout d'un peu moins de 4 mois, le roman est prêt. Et il est vraiment bien bâti, si bien qu'à peine envoyé à 4 ou 5 maisons d'édition du secteur, les coups de téléphone pleuvent. À aucune, bien entendu, Libre Chair n'a révélé sa véritable identité, et d'ailleurs, personne n'a cherché à forcer le secret. 2 mois plus tard, Sueur Basse est imprimée avec sa couverture cochonne. La maison d'édition a organisé une présentation du livre à la gare de Rome, dans le hall qui mène au train. Pour l'occasion, Orietta a remis les vêtements sexy du moment où elle écrivait et un loup noir sur son visage pour ajouter un brin de mystère et naturellement pour éviter que quelqu'un puisse la reconnaître. Devant elle, au-delà de la table où il y a le micro et la bouteille d'eau minérale, se sont regroupés 2 ou 3 cercles de l'enfer dantesque. Des baraquets informes qui se tripatouillent sans arrêt, des retraités tout secs, avec la bave au coin de la bouche, des porteurs costauds qui, maintenant qu'ils ont posé des valises, lancent des propositions entortillées. Il y a aussi quelques beaux garçons en blouson, des gigolos, qui, dans les chiottes de la gare, donnent leur cul ou leur queue à des voyageurs de passage. Et c'est un jeune homme musclé qui lève poliment la main, pleine de bagues, et pose la seule question, quelque chose de compliqué et confus, très cultivé, très ennuyeux. La conclusion pourtant est celle-ci. « Vous, professeur, vous êtes la plus belle, croyez-moi. » Libre Chair répond en balbutiant. Elle cite au hasard Diderot et Bataille, elle s'embrouille, fait tomber le micro, repart sur Platon et Pétrone, se bloque, rouge jusqu'à la pointe des pieds, puis repart jusqu'au moment où, devant elle, il ne reste que le gars en question et un retraité hideux avec la braguette ouverte. Les autres ont déserté en bâillant et en jurant le nom de la Madone. Une heure plus tard, la prof et le jeune sont dans une chambre de l'hôtel Beretta, au quatrième étage d'un sombre immeuble de l'époque umbertienne, au paradis. Le jeune homme, aujourd'hui, tapine à la gare, mais il a été un temps étudiant d'Orietta Delfini, et il l'a reconnu tout de suite à ses grosses chevilles et au ton sensuel de sa voix. Il a fait 2 ans de fac, il avait des notes moyennes, puis il avait arrêté. Au lit, il a 20/20. « Libre chair, en libre état », lui murmure-t-il en lui mordillant le lobe de l'oreille. Devant l'hôtel, les amants se quittent avec passion et reconnaissance, échangent leurs numéros de téléphone, se donnent rendez-vous. Orietta a l'impression de toucher le ciel du doigt, tandis qu'elle touche encore une fois son gaillard entre les jambes. Du reste, rien n'a pénétré plus profondément en elle que le sexe de son ancien élève. La police la retrouve égorgée 2 jours plus tard dans un garage du coin. L'assassin, rapidement identifié, avoue tout. « Ça faisait une éternité que je la désirais », avoue le retraité à la braguette ouverte, ancien président de la faculté de philosophie.